À Paris, je vous laisse en compagnie de Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous, allez bienvenue. Et notre coup d'œil, comme chaque soir à RFI Soir, ça commence dans une demi-heure après le grand journal. Nous serons en direct de Versailles, où cette journée va faire date en faveur du droit des femmes, puisque la France devient le premier pays à inscrire explicitement dans sa constitution l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Députés et sénateurs sont réunis pour approuver, et cela devrait se faire à une très large majorité, approuver la modification de la constitution. Demain mardi, c'est le Super Tuesday, ça se passe aux États-Unis, c'est un rendez-vous qui est toujours crucial en vue de la course à la Maison Blanche. Des primaires sont organisées dans pas moins de 15 États. Ce sera le Super Trump, c'est ce que nous dit le journal La Croix. Nous serons en ligne avec Gilles Biasset de La Croix, qui consacre un dossier à ce sujet, alors que l'ex-président américain devrait faire un grand pas supplémentaire en vue de l'investiture républicaine. 19h30, dans une heure, Afrique Soir, la première édition, ce sera Zéphirin Quadio qui sera aux manettes. Mais pour l'heure, c'est votre débat.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en ce début d'année en France, c'est la morosité économique qui domine. En à peine 3 mois, 2 grandes annonces de dégraissage ont été faites. 12 milliards d'euros d'économies prévues en 2025, puis plus récemment, un plan d'urgence de 10 milliards. Raison invoquée, il faut réduire la dette. Et pour y parvenir, on ne peut pas compter sur la croissance qui est atone. Face à ces perspectives, ce soir, on pose la question, est-ce que la France se dirige vers l'austérité? Et quels en sont les risques? Et puis, est-ce que la France est un cas isolé ou est-ce que cela risque de toucher toute l'Europe, conséquence de la période du Covid? Existe-t-il des alternatives? Soyez les bienvenus dans le débat du jour.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos 3 invités, à mes côtés en studio, Anne-Sophie Alsif, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef économiste à BDO France, qui est un cabinet de conseil économique, et vous êtes enseignante à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Nos 2 invités sont en ligne avec nous. Bonsoir, Lucie Casté.
Bonsoir.
Co-porte-parole de Nos Services Publics, qui est un collectif d'agents publics. Et enfin, Mathieu Plane, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, l'annonce la plus récente parmi les 2 annonces que j'ai évoquées, c'était il y a 2 semaines, quand Bruno Le Maire, sur TF1, a décidé d'un plan donc, de 10 milliards d'euros d'économies, un plan d'urgence. Il ne s'agit pas... que la population trinque, il s'agit de réduire le train de vie de l'État. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Économie, Anne-Sophie Lassif. Est-ce qu'on peut le croire, cet argent, ces 10 milliards d'euros, où vont-ils être récupérés?
Alors, c'est vrai que déjà, il y a un élément de contexte qui est quand même la révision à la baisse de la perspective de croissance pour la France pour cette année. On était au niveau du gouvernement à 1,4%. Là, il y a une révision à la baisse qui s'est faite à 1%. Nous, dans nos prévisions, on est plutôt autour de 0,8%. Donc, on voit qu'il reste quand même un plafond assez élevé. Et bien évidemment, moins de croissance économique égale moins de recettes fiscales et donc un impact sur les finances publiques dans un contexte de fort endettement. Donc, c'est vrai que c'est de là d'où ça part, cette révision à la baisse avec une croissance qui était considérée, une prévision qui était beaucoup trop optimiste. Une fois qu'on a dit ça, l'idée, c'est de faire des coupes. Donc, en effet, dans ces 10 milliards, il y a une partie au niveau des ministères. Donc, on parle toujours du millefeuille administratif, on parle d'essayer justement d'augmenter les gains de productivité dans certains ministères, de réduire des coûts, d'avoir plus d'efficacité. Et puis aussi des dotations d'État qui vont baisser. On a parlé de l'aide au développement. Donc, des contributions que fait l'État français, mais qui vont être réduite pour arriver à essayer de boucler un fameux 10 milliards. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est, à mon sens, une première étape. On aura sûrement une autre révision à la baisse de la croissance, notamment à l'été, puisque 1%, ça reste encore optimiste. Et là, c'est vrai que dans les baisses de dépenses, là, ça reste encore assez cosmétique. Il faudra sûrement aller chercher ailleurs. Alors, il y a des pistes qui ont été soulevées. Encore réformer l'assurance chômage, le Premier ministre en a parlé. Aller vers la réduction ou des allègements concernant les cotisations sociale. Mais encore là, on voit que c'est très compliqué parce que la difficulté, c'est de ne pas rentrer justement dans une politique récessionniste d'austérité. Et comme vous le dites très bien dans le titre de l'émission, si on est en austérité, on a un risque d'avoir un très faible ralentissement de la croissance. Et moins vous avez de croissance, eh bien moins vous désendettez.
Alors, il y a une interrogation sur les secteurs qui sont quand même touchés par ces économies. Il y a eu le décret d'application qui décrit justement le détail de ces économies ministère par ministère qui a été publié au journal officiel quelques jours après l'annonce de Bruno Le Maire. Les 2 premiers secteurs touchés, l'écologie, avec une 2,14 milliards d'euros de budget en moins. Mmh. C'est 20% du budget du ministère de l'écologie. C'est quand même un ministère qui est censé être important. Oui. Ensuite, il y a le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 904 millions d'euros. Et l'éducation nationale, moins 692 millions d'euros.
Alors tout à fait, mais c'est vrai que le ministre a cité sur le fait que l'idée, c'est ne pas toucher au cœur, hein, c'est-à-dire aux programmes, aux moyens, par exemple l'éducation nationale pour les professeurs qui ont été augmentés, les moyens dans les classes, mais vraiment sur le fonctionnement. Donc voilà, essayer d'être plus efficace, de numériser, d'avoir moins de couches, essayer qu'il y ait le moins d'impact possible sur le fond du travail des ministères, en disant, voilà, il y a encore des gains d'efficacité. Bien sûr, vu les montants, et vous l'avez dit, les pourcentages, notamment pour l'écologie, bien sûr qu'il y a un impact. Et puis surtout, il y a l'idée du signal. On est en pleine transition écologique, on a un impact sur l'éducation nationale, où il y a énormément besoin de moyens, vu les défis qu'on a technologiques, on sait le niveau dans beaucoup de matières. Et donc, c'est vrai que ça paraît, la recherche, n'en parlons pas, là, c'est absolument fondamental pour toutes les transitions. Ouais. Donc, c'est assez étonnant, en effet, d'aller vers ces ministères-là qui sont absolument centraux, même dans les discours politiques des différents membres du gouvernement.
Mais c'est qu'un symbole, ça ne va pas amputer de moyens.
Alors, il y aura forcément un impact sur les moyens, mais encore une fois, je pense que l'idée, c'est que ça ait un minimum d'impact sur le fond. Donc l'idée, ce sera ça. C'est pour ça que les sommes, même si ça paraît beaucoup, par exemple pour l'écologie en termes de pourcentage, l'idée, c'est de contenir l'impact un maximum. Après, bien sûr qu'il y aura un impact sur les moyens, parce que vous l'avez dit, c'est moins d'argent. Après, l'autre élément, hein, c'est le gouvernement se dit, bon, certes, notre croissance était revue à la baisse, mais peut-être que voilà, si les taux baissent, si on a une accalmie au niveau de l'inflation qui en effet décélère fortement, eh bien peut-être qu'on aura une bonne surprise et qu'on pourra avoir plus de rentrées fiscales et revoir ses plans. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est quand même un impact fort, et surtout dans ces secteurs-là qui sont quand même fondamentaux pour les transitions.
Lucie Castet, co-porte-parole de nos services publics, ça vous inspire quoi, ces économies annoncées par Bruno Le Maire ?
Déjà, je souhaiterais revenir sur la question de la révision de l'hypothèse de croissance qui a été abordée par votre invité à l'instant. Je pense qu'il est quand même très important de dire que c'est extrêmement problématique que le gouvernement argue d'une révision des hypothèses de croissance quelques semaines à peine après le vote du budget pour annuler 10 milliards de crédits. Les hypothèses de croissance avaient déjà été décrites comme extrêmement ambitieuses par différents organismes indépendants, notamment le Haut Conseil aux finances publiques. Donc, c'est très difficile démocratiquement d'arguer de ça quelques semaines après le vote du budget. Ensuite, je ne suis pas du tout d'accord sur le fait de qualifier les 10 milliards d'euros de cosmétiques. Ces 10 milliards d'euros, c'est un montant extrêmement élevé. Pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près le budget de la justice ou le budget de la transition écologique. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Et ça aura des impacts concrets et massifs sur les services public du quotidien. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, on a regardé très en détail le décret dont vous avez parlé, le décret d'annulation des crédits qui a suivi les annonces de Bruno Le Maire, qui a été publié le 22 février dernier. On a regardé les petites lignes, et il y a les lignes dites de T2. Dans la nomenclature budgétaire de l'État, ça correspond à la masse salariale, à ce qui permet de payer les agents publics. Et on a des annulations de crédits qui correspondent à des suppressions de postes en ordre de grandeur. Par exemple, l'enseignement scolaire, ça correspond à environ 11 000 postes. C'est énorme. Ouais. Quand on parle, par exemple, de la justice, ce sont 300 postes. La recherche, 7 500 postes. C'est vraiment très important et ça aura un impact très, très sévère sur le fonctionnement des services publics, dont tout le monde s'accordait à dire, il y a encore quelques semaines, pour dire qu'ils étaient exsangues et qu'ils avaient besoin de moyens supplémentaires. Donc ça, c'est extrêmement problématique. Et ensuite, le choix. Et ça, votre premier invité l'a très bien décrit, je pense. Hein, le choix des secteurs concernés pose quand même beaucoup de questions, parce qu'on dirait qu'ils ont choisi les secteurs qui sont les plus centraux pour l'avenir, la préparation de l'avenir. Quand vous dites plus de 20% du total des crédits supprimés sur des programmes qui touchent à l'écologie, c'est dramatique. Alors même que le FMI nous dit, chaque année de retard à prendre des mesures publiques en faveur de la transition écologique, c'est une dette publique qui s'alourdit entre 0,8 et 2 points de PIB. Et donc, là encore, on obère nos chances pour l'avenir et on rend plus compliqué cette transition écologique et on joue en fait contre des hypothèses de croissance futures.
Mathieu Plane, on a bien compris les raisons de ces économies annoncées par Bruno Le Maire, cette croissance. Alors, je voudrais aussi savoir s'il y a vraiment une énorme différence et un plan d'urgence nécessaire quand on passe d'une croissance de 1,4 à 1%. Sur le papier, peut-être pour nos auditeurs, ça paraît pas énorme, la différence. 1%, on a compris que c'était cependant pas acquis. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des économies à faire ailleurs ?
Alors, vous l'avez bien dit, hein, effectivement, une révision de 1,4 à 1, ça paraît assez négligeable, mais ça l'est pas tant que ça, hein, en fait, hein, parce que ne pas oublier que la croissance, c'est ce qui va déterminer les recettes fiscales, globalement, hein, et notamment ce qui va rentrer dans les caisses de l'État ou même de la sécurité sociale. Et donc forcément, à chaque fois qu'on révise la croissance à la baisse, les objectifs de déficit public sont plus durs à tenir. Le risque, c'est justement de s'engager dans une politique comptable qui vise à tenir des objectifs budgétaires alors même qu'il y a moins de croissance. Et plus on va aller loin dans des politiques de restriction budgétaire parce qu'il y a moins de croissance, pour tenir ces objectifs budgétaires, moins il y aura de croissance en sortie. Et c'est ça, hein, qui était l'erreur d'ailleurs, qui a été assez fondamentale, on va dire, post-crise financière, hein, du début des années 2010, c'est-à-dire qu'il y a eu des tournants de vis budgétaires qui faisaient face à moins de croissance et qui ont entraîné la croissance justement à la baisse, jusqu'à même rentrer en récession pour un certain nombre de pays. Donc la difficulté, c'est à la fois de maintenir cette croissance, de continuer à créer des emplois, à investir, tout en tenant les objectifs budgétaires. Et on voit que c'est un peu la quadrature du cercle, surtout à un moment donné où effectivement les éléments extérieurs ne sont pas bons. On parle de la politique budgétaire, mais la politique monétaire est aussi devenue restrictive, alors que le quoi qu'il en coûte a été permis justement parce qu'on avait des taux très bas. Or aujourd'hui, les taux très bas, c'est terminé. Que effectivement on essuie deux chocs majeurs qui sont une crise Covid et une crise énergétique, et que du coup la conséquence c'est que les finances publiques sont dégradées. Or, on voit bien que la croissance est quand même pas au rendez-vous, on s'en doutait qu'elle serait pas un 4, elle serait même peut-être, même les 1 sont aujourd'hui voire une fourchette haute. Hein. Et puis le gouvernement a dit depuis le début qu'il n'augmenterait pas la fiscalité. Or, c'est un des vrais problèmes, c'est-à-dire que face à ça, se pose la question, est-ce que l'économie peut absorber des coupes importantes sur la dépense publique? Et j'allais dire, là, on est au premier volet, parce que l'objectif est quand même de ramener le déficit public en dessous de 3%. Or, si la croissance n'est pas là et qu'on n'augmente pas la fiscalité, c'est où on va faire des économies substantielles sans que c'est des effets très forts sur l'avenir. C'est-à-dire là, on parle de la transition, on parle de l'emploi, on parle de la recherche, mais on a des engagements. On a des engagements forts vis-à-vis de la transition. On a des engagements militaires avec une loi de programmation militaire. Donc, j'allais dire, il y a un moment donné, les choses ne bouclent pas. C'est-à-dire qu'il y aura des choix à faire, soit on ne tient pas les objectifs budgétaires, soit on condamne la croissance, soit il va falloir augmenter les impôts. En tout cas, ça semble assez difficile que tout ça soit indolore.
Anne-Sophie Alsif, pour poursuivre un petit peu ce tour d'horizon de la situation, l'objectif européen reste les 3% de déficit public, ça ne change pas. Est-ce qu'on n'est pas à un tournant? Et en quoi est-ce que la France est loin d'être un cas isolé en Europe? Le 1er janvier de cette année a pris fin le moratoire qui avait été instauré pendant la crise sanitaire sur les dépassements des règles budgétaires européennes par les États membres. Donc on l'a dit, 12 milliards d'euros d'économies prévues en 2025, avant cela 10 milliards en France, 17 milliards d'euros d'économies en Allemagne cette année, 20 milliards d'euros d'économies d'ici 2026 en Italie. On est à la fin de la période post-Covid, la fin du quoi qu'il en coûte. Ce début d'année 2024 est un tournant.
Alors oui, complètement. Alors déjà, on est toujours en effet dans l'objectif au niveau européen de respecter les fameux 3% de déficit public et 60% d'endettement public. Par contre, il y a quand même eu une réforme sur ces fameux critères qui étaient des ratios et qui en effet ne correspondaient pas à la situation de pays européens qui ne sont pas du tout dans la même situation économique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, certes, il faut respecter ces ratios, mais surtout, il faut avoir une trajectoire de désendettement. On cite souvent l'Italie qui est plus endettés encore que nous, mais par exemple, qui est souvent en excédent primaire. Donc en effet, quand on retire la charge de la dette, finalement, il y a une assez bonne gestion des finances publiques. Et donc ça, par exemple, c'est un indicateur qu'aiment voir les investisseurs et qui est assez bon pour la soutenabilité de sa dette. Donc l'idée, c'est vraiment les trajectoires des pays. Il faut en effet pas se désendetter en faisant l'austérité dure comme on a eu après la crise des dettes souveraines en 2010, parce qu'il y a un risque de récession. Et on a vu en Allemagne, c'est le pire. Donc ça, on veut pas. Par contre, bien sûr, il faut sortir du quoi qu'il en coûte. Maintenant, ça fait quelques années le Covid avec les points de pipe de dette qu'on a eu, pas seulement en France, mais vous l'avez dit, en Italie, en Espagne, en Allemagne, enfin le monde entier s'est surendetté. Donc maintenant, il faut essayer d'avoir des finances publiques plus vertueuses. On sait qu'il y a la notation des agences, la notation des agences. On sait qu'il y a au niveau de nos dettes une soutenabilité qui est importante, puisque plus on augmente notre charge de la dette, moins c'est de l'argent en effet pour les ministères et pour l'action publique. Donc il y a vraiment cette problématique. Et donc le gouvernement doit essayer, en effet, d'avoir des finances publiques plus soutenable, en tout cas en disant on fait des efforts. C'est pour ça qu'il y a eu la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage. Il y a des signes qui vont faire plus d'austérité. Et de l'autre côté, garder un minimum de croissance. Et donc, il le fait en faisant des touches de quoi qu'il en coûte, hein, en donnant voilà, par secteur aux agriculteurs, demain à d'autres corporations, pour essayer de garder ce filet de croissance. L'avantage que l'on a en France, hein, que très souvent, même la politique de chèque va dans l'économie et qu'on a une bonne consommation des ménages qui arrive à perdurer. Hein, c'est plutôt l'investissement des entreprises qui est obéré. Et donc, ces ménages continuent de consommer malgré tout. Je rappelle, on a aussi un taux d'épargne à plus de 17%, donc qui est excessivement élevé. Donc, le gouvernement mise aussi là-dessus en disant, si demain, ça va mieux, peut-être que les ménages vont plus consommer et on retrouvera un semblant de croissance. Mais c'est vrai que sans augmenter les impôts et si on a une croissance en berne, ça devient difficile.
La marge de manœuvre est limitée.
Le débat du jour sur RFI. Romain Ozoui.
Et donc, est-ce que la France se dirige vers l'austérité ? Car cette marge de manœuvre est limitée, nous dit Anne-Sophie Alsif. Notre débat ce soir, Anne-Sophie Alsif, chef économiste à BDO France, qui est un cabinet de conseil économique, enseignante à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Lucie Casté, co-porte-parole du collectif d'agents publics Nos Services Publics, et Mathieu Plane, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Lucie Casté, je voudrais vous donner la parole à présent. L'austérité est en marche, a dénoncé l'association Attac. Est-ce que c'est ce que vous pensez, vous également, aujourd'hui ? Ou est-ce que, c'est le passage obligé, la situation actuelle, après cette longue période du quoi qu'il en coûte, qui a été quand même exceptionnelle et qui a suivi la crise sanitaire ?
Je voudrais rebondir sur ce qu'ont dit les deux autres invités à l'instant, sur est-ce qu'on a le choix ou est-ce qu'il y a d'autres options. Je pense que c'est très important de dire que les mesures qui sont prises en ce moment ne sont pas un passage obligé. On peut réduire le déficit par d'autres moyens. Le déficit public, on peut le réduire à la fois en jouant sur le volet des recettes, donc ça c'est la fiscalité. Et là-dessus, il faut bien dire qu'en France, on a une fiscalité qui est extrêmement problématique. Vous avez encore un rapport de l'Institut des politiques publiques en juin 2023 qui a montré que lorsqu'on considérait les 0,1% des ménages les plus riches, les plus privilégiés en France, ils paient un impôt qui est régressif, c'est-à-dire que le taux d'impôt qu'ils payent diminue à mesure que la richesse augmente. Donc on peut réfléchir à notre système fiscal et réfléchir à actionner ce levier pour faire rentrer davantage de recettes. Et là, vous faites réduire le déficit de l'État. Et en réalité, la politique qui est menée depuis le début du premier quinquennat du président de la République actuelle, c'est plutôt de diminuer les impôts. Et on a vu que les effets sur l'économie ne sont pas très sensibles. Et donc c'est un levier à activer. Ensuite, pour baisser le déficit, on peut effectivement baisser les dépenses comme s'engage à le faire le gouvernement, mais là-dessus, il y a plein d'autres options. Là, on a choisi des secteurs, on l'a dit tout à l'heure, qui sont extrêmement importants pour la vie quotidienne des citoyens. Et donc, ce n'est pas vrai de dire que ce sera l'État qui sera touché et pas les citoyens. Quand vous baissez de 2 milliards d'euros le budget de la transition écologique, dont 1 milliard sur les rénovations thermiques des bâtiments, vous avez un effet extrêmement concret sur la vie quotidienne des gens. C'est à peu près 134 000 logements qui ne seront pas rénovés thermiquement, soit l'équivalent environ de la ville d'Orléans ou la ville de Brest. Donc c'est extrêmement sensible pour les gens. On avait plein d'autres options à étudier, par exemple. Aujourd'hui, le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt compétitivité des entreprises, qui a été transformé en allègement de charges, ça coûte à l'État chaque année 27 milliards d'euros. Or, vous avez des instituts comme France Stratégie qui vous expliquent que ces crédits d'impôt ou ces baisses d'impôts n'ont pas un impact déterminant sur la compétitivité des entreprises ou sur la création d'emplois. Pourquoi ne pas réfléchir à aller baisser cet engagement auprès des entreprises ? Nous ne disons évidemment pas qu'il faut baisser toutes les aides aux entreprises ou les supprimer. Simplement, on dit qu'il y a 200 milliards d'euros d'aides aux entreprises qui sont dépensées tous les ans. Pourquoi aller chercher des dépenses dans les services publics qui auront un impact vraiment extrêmement fort dans la vie des citoyens ? Et dans un moment où, au contraire, tout le monde s'était engagé à dire il faut renforcer les moyens dédiés aux services publics.
Anne-Sophie Alsif, alors, pour rebondir à ce que dit Lucie Casté, vous n'êtes pas politologue, mais est-ce qu'on peut dire que le gouvernement, en faisant le choix de où seront effectuées ces économies, fait un choix politique ? Est-ce que, quand il décide de réduire les dépenses dans des ministères comme l'écologie, l'éducation nationale, c'est un choix politique ? Est-ce qu'effectivement, il pourrait taxer les plus riches et tout autant réduire le déficit ? Lucie Casté ne nie pas que c'est nécessaire.
Alors, c'est sûr qu'il y a toujours le levier d'augmenter les impôts. Hein. L'État peut le faire. Hein. Le précédent gouvernement l'ont fait, le gouvernement Hollande. Après, le problème, il y a en effet des aspects politiques, comme il y a eu la crise des Gilets jaunes et d'autres crises.
Oui, mais là, c'est très compliqué. Taxer les impôts, ça dépend
quels impôts. Exactement. Voilà, ça dépend quels impôts. Exactement. Comment on fait par rapport à ça? Le problème, c'est toujours les problèmes de volume et les problèmes de masse. Si vraiment vous voulez dégager des surplus, en tout cas vraiment des surplus plus important pour l'État, ce qu'il faut faire, c'est, en termes de volume, s'attaquer à la protection sociale, s'attaquer à différentes aides. Il faut quand même le rappeler, hein, la majorité des dépenses de l'État, c'est du revenu versé aux Français, ce que dit très bien l'INSEE. On dit souvent pourquoi on ne baisse pas massivement les dépenses publiques, mais ce n'est pas que du service public. Hein. La majorité des aides et de l'argent collecté, c'est du revenu distribué directement aux Français, aux ménages, sous forme d'aides, d'allocations ou de revenus complémentaires divers. Donc, ce n'est pas juste pour les ministères ou l'État, c'est vraiment très concret. Donc, bien évidemment, si vous voulez vraiment dégager vraiment beaucoup d'argent, c'est là-dessus qu'il faudrait aller. Et bien sûr, il ne faut pas y aller. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on a dit, c'est complètement récessif. Si vous attaquez à ce type d'aide de manière massive, eh bien, vous baissez le pouvoir d'achat des ménages qui ont le moins de revenus, et ces ménages-là consomment entièrement leurs revenus. Ils ne l'épargnent pas comme les ménages les plus élevés. Et donc, cette consommation permet d'avoir un minimum de croissance, même si elle est faible, mais ne pas rentrer en récession. Donc ça, bien sûr, on ne va pas s'y attaquer. Alors, ce que l'on peut faire, on l'a vu quand il y a eu la crise Covid ou quand il y a eu les problématiques sur les super profits, etc. À chaque fois, il y a des problématiques en disant qu'est-ce qu'on pourrait taxer. Mais c'est vrai qu'en termes de volume, ça permettrait de ne pas toucher à la recherche, à l'éducation, comme on l'a dit, ou à l'écologie. Mais ça ne résout pas le problème de fond qui est un endettement chronique important et le fait qu'on ne crée pas assez de gains de productivité et de valeur ajoutée, à mon sens aussi parce qu'on est désindustrialisé, parce qu'on a fait des choix de politique économique qui allaient vers le tout-service et on n'a pas en effet investi assez dans la recherche et la technologie. Et pour répondre à votre question, en effet, c'est aussi un choix politique. On connaît les nouvelles alliances au niveau du Parlement. On se dit aussi la recherche, les écologie, c'est des politiques de très long terme. Donc, voilà, on peut peut-être faire des économies à court terme. Et puis, quand ça ira mieux, on remettra plus. Il y a moins d'impact que si vous touchez, en effet, aux retraites ou à certaines allocations. C'est ça aussi le pari dans le contexte politique qu'on connaît d'alliance à droite.
Mathieu Plane, on parle de la dette française. Alors, elle s'élève à 110%. En dessous, clairement, des États-Unis, 123% du PIB, qui ont pourtant lancé un plan énorme de subventions à l'industrie avec l'IRA, l'Inflation Reduction Act. Est-ce qu'on peut s'inspirer du modèle américain ?
Oui, on peut toujours s'inspirer. Après, on ne fonctionne pas comme le modèle américain. C'est-à-dire que la difficulté pour nous, c'est au fond de gérer une zone monétaire avec 19 pays membres qui sont différents et une seule politique monétaire et des règles budgétaires. Or, il y a un cadre budgétaire en Europe, d'ailleurs, qui est renégocié actuellement avec des nouvelles trajectoires qui vont être définies sur les questions de réduction de déficit et de dette, ce qui n'est pas du tout le cas américain. Les Américains, effectivement, ont misé beaucoup sur l'investissement et la croissance, notamment sur la transition, sur les questions de transition avec l'IRA, mais pas que, sur un certain nombre de technologies, sur les semi-conducteurs et autres, et donc une forme de réindustrialisation assez forte aux États-Unis, mais au prix d'une dette et d'un déficit élevé, mais avec un privilège très fort qui s'appelle le dollar, qu'on a peut-être moins, et nous, surtout, on n'a pas du tout une vision commune au sein de la zone euro sur la gestion de la politique économique. Les Allemands n'ont pas la même vision que les Français, les Espagnols ou les Italiens. Alors on a défini des règles communes qu'on essaie d'appliquer, mais on voit qu'on est toujours dans cette difficulté de savoir est-ce qu'il faut privilégier la croissance, l'investissement, quitte à faire de la dette. Et cette dette-là peut être favorable, parce que cette dette-là peut générer une activité supplémentaire future.
C'est pas ce qui domine en Europe.
Mais c'est pas du tout ce qui domine aujourd'hui en Europe. Et nous, c'est vrai que cette zone monétaire a été aussi calée avec des règles budgétaires pour éviter qu'il y ait des dérives sur les finances publiques. Alors aujourd'hui, la France n'est pas particulièrement dans le viseur des marchés. C'est vrai qu'on emprunte à des taux qui restent quand même, on va dire, légèrement au-dessus de ceux d'Allemagne. Et on ne voit pas une défiance des marchés vis-à-vis de la France. Mais clairement, la crédibilité budgétaire fait partie de cette espèce de pacte, en tout cas du pacte européen, et du fait que la France continue à emprunter à des taux bas. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est que dans le monde actuel, quand on voit les transformations actuelles, à la fois énergétique, puis l'environnement géopolitique, les questions stratégiques, se pose la question de l'investissement et dire, effectivement, si on privilégie la réduction des déficits et de l'aide, mais que ça se fait au détriment de ces investissements qui seront le leadership de demain, ça pose la question du retard que risquent d'accumuler la France et l'Europe. Et donc, on est quand même toujours dans ce carcan des règles budgétaires où on a du mal à trouver des règles qui fonctionnent bien, ou en tout cas qui donnent aussi plus de j'allais dire, à faveur à cette... À cette gestion économique et macroéconomique. Donc voilà, on revient un peu dans ce qu'on a connu, j'allais dire post-crise financière. On n'est pas dans le même degré, hein, parce qu'on veut éviter les erreurs d'avant. Mais c'est vrai que quand on regarde les niveaux de déficit ou de dette, bien sûr qu'ils ont augmenté, et on ne peut pas dire le contraire. Hein. Les États ont été là pour couvrir les chocs. Mais par rapport aux États-Unis, effectivement, on est plutôt un bon élève. On est plutôt un bon élève, ouais. Mais au sein de la zone euro, on n'est pas un bon élève.
Voilà. Mais justement, la situation actuelle que vous évoquiez, elle est exceptionnelle. Est-ce que, à situation exceptionnelle, il faudrait mesure exceptionnelle et faire sauter cette orthodoxie budgétaire qui étrangle peut-être l'Union européenne, cette règle des 3%, quand on sait par exemple qu'aujourd'hui, rien que la France donne 3 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. C'est quelque chose qui n'est pas... c'est une situation hors norme.
Oui, je suis d'accord. On est dans des moments assez exceptionnels. Effectivement, quand on réduit certains budgets, on risque de retarder certaines transitions ou de perdre des capacités à innover. Donc, il y a toujours cet arbitrage à avoir. Et malgré tout, on a du mal à non plus à sortir complètement d'un carcan budgétaire. C'est-à-dire que les règles, le déficit reste quand même important, il reste surveillé. La crédibilité budgétaire aussi, elle se fait sur le long terme. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, si on emprunte à des taux bas aussi, c'est parce qu'on est crédible dans notre capacité à rembourser notamment nos dettes. Mais se posera la question, là, pour les années à venir et du retard qu'on accumule en termes de croissance vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Et ce n'est pas vrai que pour la France, c'est vrai aussi pour l'Europe. Et l'Europe est face à un défi aussi très fort par rapport au choc énergétique, et ce que vous l'avez dit, et la guerre en Ukraine, qui affecte beaucoup moins les autres zones du monde. Et ça, c'est vrai que cette forme d'orthodoxie budgétaire, elle est là quand même, elle est quand même là, et elle peut peser sur certains choix, même si on essaye de faire évoluer ces règles et de faire en sorte qu'elles le soient moins rigides et moins dures qu'avant. Malgré tout, elles sont quand même pas évidentes à contourner.
Lucie Casté, Mathieu Plane a fait le parallèle avec la période post-crise financière de 2008. C'était le début, à partir de 2010, de l'austérité en Europe. Est-ce qu'on est à l'aune d'une nouvelle période comparable, selon vous, aujourd'hui ? Est-ce que ça vous inquiète, ça ?
Oui, bien sûr, on est inquiet de ça. Je pense qu'en effet, on est dans une période où il est absolument fondamental de préparer l'avenir, et je pense qu'il a très bien expliqué le fait que lorsqu'on baisse, par exemple, les dépenses en matière de transition écologique, on ne se met pas en mesure de préparer l'avenir. Et donc là, on assiste à une logique vraiment de mise en valeur du très court terme, ce qui est extrêmement inquiétant et ce qui n'est pas de bonne administration, ce qui n'est pas rigoureux, y compris économiquement. Et il y a aussi des endroits où on ne se doute pas que l'avenir se loge, mais par exemple, on sait, ça a été très, très documenté, que la Corée du Sud a fait un bon en matière de croissance lorsqu'elle a investi massivement dans l'éducation. Et ça, nous, aujourd'hui, on est en train de réduire les dépenses en matière d'éducation. On a beaucoup d'éléments qui nous portent, qui démontrent que l'éducation nationale va très mal, d'ailleurs avec une sorte de fuite vers l'éducation privée. Et on ne se rend pas compte qu'on détruit notre potentiel de croissance à très long terme. Et ensuite, je pense qu'il est très important de dire que si même on veut être les fervents défenseurs de notre crédibilité vis-à-vis des agences de notation, et là, il faut regarder le potentiel fiscal. On sait qu'il est très difficile de réaugmenter des impôts une fois qu'on les a baissés. Or, les agences de notation, elles évaluent notre crédibilité et la soutenabilité de notre dette aussi à l'aune de notre incapacité à recourir à l'instrument fiscal. Or là, on s'en prive. Et donc, c'est extrêmement inquiétant pour l'avenir.
Anne-Sophie Alsif, alors c'est intéressant parce qu'on évoque les agences de notation, elles vont rendre leur verdict peu de temps avant les élections européennes. Donc là encore, on touche à la politique. Je voudrais juste, parce qu'il nous reste quelques secondes, rebondir sur ce qu'évoquait Mathieu Plane, sur le fait que c'est possible peut-être d'assouplir ces règles de déficit public dictées par Bruxelles. Est-ce que ça peut être la solution justement ?
Alors déjà, ce n'est pas dicté par Bruxelles. Hein. Bruxelles dicte rien, ce sont les chefs d'État et de gouvernement que les peuples élisent. Donc ça, c'est important. Il n'y a pas une Europe comme ça qui n'existe pas et les pays qui n'ont aucun lien. Et le problème, c'est que, vous l'avez très bien dit, il faut préparer l'avenir, mais on ne vit que des crises. Donc il y aura toujours, toujours, toujours des besoins de financement qui vont être colossaux. Je pense qu'on pourrait aussi développer d'autres pistes, hein, à part juste l'endettement budgétaire, comme par exemple le rôle des banques centrales. Elles ont joué un rôle central dans toutes les crises. On l'a dit, Covid, budgétaire... financières. Et à mon sens, elles auront encore un rôle central pour justement financer les transitions, parce que les États déjà très endettés ne pourront pas à eux seuls les financer.
Eh bien, merci beaucoup Anne-Sophie Alsif, chef économiste à BDO France, cabinet de conseil économique. Enseignante à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Lucie Castet, merci beaucoup. Co-porte-parole de nos services publics. Mathieu Plane, économiste à l'OFCE. Merci, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Florence Ponce était à la préparation de ce débat. Merci à Laurent Philippot qui était à la réalisation. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. C'est déjà la fin de ce débat du jour, mais l'actualité continue. Dans 30 secondes, c'était RFI Soir.